les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'est un voyage d'un genre particulier que vous propose l'émission que vous allez entendre dans quelques instants. Une exploration, ou plutôt une plongée, auprès des populations les plus marginalisées qui soient, les clochards de Paris. Les naufragés, c'est le nom que leur donne l'écrivain et psychanalyste Patrick de Clercq, qui a publié un ouvrage qui portait précisément ce titre, Les naufragés, en 2001 dans la collection Terre humaine. Un ouvrage qui a marqué ses contemporains par la dureté de ce qu'il décrit sans phare, les addictions, l'alcoolisme, la violence des clochards de la capitale. La démarche de l'auteur évidemment n'est pas gratuite, il s'agit de s'approcher au plus près de ces vies brisées pour tenter de les comprendre, comprendre leur pathologie et comprendre peut-être aussi notre propre refus de regarder le message qu'elles nous envoient. Voici donc Les naufragés, d'après l'œuvre de Patrick de Clercq, une adaptation diffusée le 1er novembre 2020 sur France Culture.
Les naufragés, adapté du livre de Patrick de Clercq, mise en voix pour la radio d'après la mise en scène d'Emmanuel Mérieux. Enregistré en public au Théâtre de la Ville Espace Cardin le 17 octobre 2020, dans le cadre du cycle Combat, proposé par France Culture et le Théâtre de la Ville.
C'est l'odeur dont je me souviendrai le plus longtemps. Une odeur qui vous prend à la gorge, qui imprègne vos vêtements. Une odeur d'aisselle, d'entrejambes, de pieds purulents qui n'ont pas été déchaussés depuis des semaines. Pendant 15 ans de ma vie, je me suis intéressé aux clochards de Paris. Je les ai suivis dans la rue, dans les centres d'hébergement, dans le métro, à l'hôpital. J'ai aidé à les soigner. Je pense en avoir soulagé plusieurs. Je sais n'en avoir guéri aucun. La plupart du temps, je les ai haïs. Ils puent, ils puent la crasse, le mauvais vin, ils puent la haine, la rancœur. Ils se volent entre eux, terrorisent les plus faibles, guettent comme des rats le sommeil des autres pour leur voler une bouteille à moitié vide, violent leurs femmes, ou bien les prostituent pour un peu d'alcool ou des cigarettes, et elles protestent pas, elles ricanent avec leur bouche édentée de vieilles sorcières. Mais il n'y a pas eu que la haine, c'est plus compliqué que ça. Sinon, je ne serais pas resté aussi longtemps auprès d'eux, à les regarder, à les écouter. Ça fait 20 ans maintenant que je les ai quittés. Les souvenirs se bousculent. Les morts, les vivants. Les morts vivants, tous ceux que j'ai croisés, le temps d'un mot, d'un comprimé, d'un pansement, d'un repas chaud. Raymond. Raymond. Sa bouille toute ronde et son gros pif. Son gros pif de Raymond. J'ai commencé à côtoyer les clochards en tant qu'ethnographe. Mon boulot, c'était de mener sur le terrain une étude descriptive et analytique de cette population. J'ai décidé de me faire embarquer incognito avec eux pour passer une nuit à Nanterre, à l'hébergement d'urgence. En fait, quand je dis Nanterre, c'est le CACH, le centre d'accueil et de soins hospitaliers. À l'origine, c'était une prison pour pauvres. On l'appelle aussi la maison de Nanterre, ou la maison, tout simplement. La maison. Elle comprend un centre d'accueil, une antenne médicale, l'hôpital Max Forestier, et puis un cimetière, dernier maillon de la chaîne, pour parer aux autres éventualités. 750 lits, personne n'a compté les tombes. Voilà. C'est l'hiver 1984, j'ai 26 ans. Dans ma chambre à la cité universitaire, je prépare mes affaires pour la nuit, un vieux bonnet, des vêtements abîmés, un bracelet anti-puce pour chien autour du poignet, un autre autour de la cheville, et puis pour mon retour, des poudres insecticides et antigales. J'ai la trouille, j'ai peur de la contamination, réelle ou symbolique, aller là où il faut pas, Revenir, bien sûr, mais plus tout à fait le même. Marqué. Souillé. Je laisse une enveloppe dans mon casier avec la clé de ma chambre. Je sais que je peux être fouillé. Il faut que rien sur moi n'indique un quelconque domicile. Pas de papier non plus. Mais j'ai prévenu des amis que cette nuit, j'étais à Nanterre. Il est arrivé qu'au petit matin, là-bas, on retrouve un ou deux clochards décédés de manière suspecte. Une fois dehors, je verse sur mes vêtements la moitié d'une bouteille de mauvais vin. Et puis je rejoins la tour Saint-Jacques où j'attends le bus de ramassage pour Nanterre. Il fait froid, je m'installe sur la bouche d'aération du métro pour me réchauffer avec les autres. Mon voisin me fait la conversation. Dis donc, t'es nouveau, toi ? Oui, je viens du Nord, il n'y a plus de boulot là-bas. Oh, tu sais, du boulot, il n'y en a plus nulle part. On s'observe mutuellement, comme pour évaluer notre dangerosité réciproque. Toxico, alcoolo, dingo, pédé, pas pédé. Il est petit, maigre, voûté, quelques dents en moins. Il n'a pas l'air très sale, mais il a des croûtes dans les cils et sur les paupières. Il me demande mon âge, je lui dis 26 ans, et là il me regarde, plein de compassion, et il me lance comme ça, « Oh putain, ce que la vie t'a abîmé quand même !» Quand le bus arrive, tout le monde ramasse ses paquets. Je m'attendais à être fouillé, mais pas du tout. Non, non, en fait, les policiers n'ont aucune envie de fouiller des gens aussi répugnants que nous. Je m'installe le plus près possible de la porte du fond. Elle ferme mal, l'air filtre par les interstices. J'espère que ça atténuera un peu l'odeur. Là, il y a une grosse femme qui s'approche, qui écarte les jambes et qui, tout debout, commence à pisser dans un gobelet en plastique qu'elle essaie ensuite d'évacuer, tant bien que mal, par la fente de la porte. Les hommes, eux, pissent franchement en arrosant le bas de la porte et le bas de mon pantalon par la même occasion. Sans le savoir, je m'étais installé à côté des chiottes. Un peu plus tard, j'assiste au coït, là, par terre, dans l'allée du bus, d'un homme d'une trentaine d'années, avec une vieille complètement ivre. Ça rigole, ça commente, ça encourage. Tout ça sous l'œil amusé des policiers, tous fonctionnaires assermentés qu'ils sont. Ils n'en savent pas moins apprécier la fine plaisanterie. Clin d'œil de connaisseurs, d'homme à homme. Il nous faut 5 heures pour arriver à Nanterre, au centre d'hébergement. Dans la cour, des surveillants en blouse blanche nous attendent. Le jet d'eau est prêt pour nettoyer le bus. Il peut servir aussi pour les récalcitrants. Tout le monde descend dans le froid et la nuit, sous les cris des surveillants. En passant devant eux, un vieux bonhomme très maigre et complètement sous les traites de PD. Aussitôt, il est emmené dans un coin. Une simple gifle le fait tomber par terre. Et puis 2 ou 3 coups de pied bien placés achèvent de rendre aux blouses blanches leur intégrité sexuelle. Notre colonne titubante se met en marche. On ressemble vraiment à un défilé de vieux clowns. On gravit tant bien que mal un escalier qui nous mène à une grande salle. On est censé se déshabiller et faire un paquet de nos vêtements. Moi, je reste en caleçon. Il y a un surveillant qui me dit « T'as vu, c'est chouette ce qu'on fait ici pour les autres, hein ?» Ah ouais. Travailler pour les autres, c'est comme une vocation, un idéal, c'est chouette. Les habits tombent les uns après les autres. Manteau, veste, pull. Ça fait maigrir. Sous les habits, des squelettes, des jambes allumettes, des corps d'alcoolo tout blanc, sauf le visage rouge-brun. Bronzage crado, bronzage clodo. Et ça ricane encore. Après, c'est la douche obligatoire. Pas assez d'eau, des filets seulement, de l'eau discrète, modeste, timide, de l'eau homéopathique. Et puis 2 ou 3 minuscules morceaux de savon, c'est marrant. Les savons aussi sont poilus. Les clochards les plus encroûtés sont lavés par les surveillants. Aspergés de savon liquide, frottés au bas des brosses. Sur une peau trouée de morsures de poux ulcérées, apparemment, ça n'est pas sans douleur. On nous distribue nos uniformes. Trop petits, trop grands. On ressemble encore un peu plus à des clowns. Il est 23 heures, je marche derrière les habitués jusqu'au réfectoire. un café, un morceau de pain. Et puis c'est la ruée vers le dortoir des hommes. 150 lits. Superposés pour doubler la capacité d'accueil. Donc lits à haut risque. Urine, vomi, diarrhée, tout ça coule généreusement sur celui qui dort en dessous. J'ai fini dans une couverture dégueulasse à écouter la nuit. C'est l'heure où les corps se relâchent. Alors je m'enfonce le plus possible au fond de moi-même et je me récite tous les poèmes que je connais. À 4 heures, je me réveille pour aller pisser. Les chiottes sont dans la cour, turques évidemment, indescriptibles. Un humoriste forcené, les doigts trempés d'excréments, a écrit sur les murs « Merde à celui qui lira ça ». À 6 heures, lumière, réveil, café, morceau de pain comme la veille au soir. Mais avec une variante rigolote tout de même. En buvant le café, on joue à la bloblotte. C'est à celui qui tremblera le plus à cause du manque d'alcool. Il n'y a qu'en Afrique, chez les paludiques en crise, que j'avais vu des tremblements pareils. On nous redonne nos uniformes, nos vêtements civils, tout rétrécis à cause du passage à l'étuve. Des types gueules qui n'arrivent plus à rentrer dans leurs pantalons, ça amuse beaucoup les surveillants. Super les costumes les gars, vous êtes beaux comme des sous-neufs. On attend le bus qui va nous ramener sur Paris. Dans la cour, on a retrouvé les femmes, jamais plus d'une quinzaine par nuit. En général, leur état de saleté, de dégradation, les maintiennent à peu près à l'abri de l'attention des surveillants. Quand le bus arrive, c'est la ruée. Ça gueule, ça cogne. En fait, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et il n'est pas question de passer une minute de plus à Nanterre, parce que l'urgence maintenant, c'est de trouver du vin. Une personne alcoolo-dépendante, à part définition, un besoin vital d'alcool. La crise de manque peut mettre sa vie en danger. D'ailleurs, d'un point de vue strictement médical, le syndrome de sevrage est considéré comme une urgence. Alors, la bloblotte, c'est marrant au début. Mais beaucoup moins quand ça évolue en crise d'épilepsie. C'est ce qui arrive dans le bus à un type là, qui s'effondre à mes pieds et qui commence à convulser. Tout le monde s'en fout. Moi, je le mets sur le côté pour qu'il ne s'étouffe pas avec sa langue ou dans son propre vomi. Et je le tiens pendant qu'il s'agite pour qu'il ne se blesse pas. Au bout d'un moment, il se calme, ça a l'air d'aller mieux. Alors je l'aide à se relever et puis je lui demande si ça va. Et là, il m'en garde, le menton couvert de morve et de vomi. Il hausse les épaules et avec un grand sourire, il me dit « Bah ouais, ça va. Pourquoi ? Et toi, ça va ?» Voilà. Des nuits comme ça, j'en ai fait une bonne dizaine. Et quand j'ai voulu rapporter ce que j'avais vu aux autorités, ben j'ai bien compris que ça n'intéressait personne. Au mieux, tout ça a dû faire l'objet d'une note mesurée et circonspecte. Faut bien se couvrir si on veut pas prendre froid. J'ai définitivement arrêté ces expériences d'immersion le jour où, dans le bus, je me suis retrouvé coincé à côté d'un Ukrainien complètement halluciné. Il n'arrêtait pas de se planter dans la cuisse une aiguille longue comme ça, et il fouillait, le sang coulait. Moi, je pensais au sida, aux hépatites, à la contamination, tout ça, et j'ai eu très peur. Donc, quand le bus est enfin arrivé à Nanterre, j'ai profité de l'obscurité, de la confusion, et je me suis faufilé discrètement vers la sortie. Je suis retourné à Nanterre 4 ans plus tard, mais cette fois comme psychanalyste, pour intégrer l'antenne médicale. On s'était dit comme ça que ce serait peut-être intéressant de doubler la consultation de médecine du regard d'un psy. suis arrivé par la cour que je connaissais déjà. Celle où chaque nuit, les cartes de ramassage déchargent leur cargaison de fantômes. Le sol de la cour était jonché des vestiges de la veille. Bouteilles vides, plaquettes de médicaments, préservatifs, vieux pansements. Cette fois, j'étais du bon côté. Je me souviens, pour rejoindre ma salle de consultation, il fallait suivre un long couloir, une longue, longue galerie. Et ce chemin, je l'ai fait pendant près de 10 ans, toujours en chaussures montantes, à cause des poux. À cause des milliers de poux qui dégoulinent en cascade quand on rase la tête d'un patient et qu'on détruit les nids. Un soir, j'étais resté dans mon bureau, tout seul, pour bouquiner. L'infirmière m'amène une patiente très énervée, une femme d'une trentaine d'années, obèse, le visage gonflé de graisse. Elle m'observe comme ça, avec son air imbécile, bovin. Et puis elle me demande, alors, le test pour la pension, c'est bon ? L'infirmière m'amène son dossier. Cette femme a passé un test d'urine dans l'après-midi, positif. Elle est très certainement enceinte. On lui a dit déjà, on lui a expliqué, mais elle revient quand même pour être sûre, des fois qu'il y aurait erreur. Alors la pension, je vais la toucher quand ? En fait, cette femme sort d'hôpital psychiatrique. J'arrive à joindre le toubib qui s'est occupé d'elle là-bas. Il pousse un long soupir et puis il me dit « Alors ça y est, hein ? Elle y est quand même arrivée. » En fait, cette femme est une grande hystérique, presque arriérée mentale. Elle ne pense qu'à une chose, les allocations familiales. C'est une idée fixe, elle pense qu'à ça. À l'hosto, elle se tapait tout le monde. On l'a retrouvée dans les chambres en train de chevaucher les grabataires. Alors, ils lui ont posé un stérilet. Mais une fois dehors, on ne peut plus rien empêcher. Et le toubib me confirme qu'à peine sortie de l'hosto, elle s'est précipitée à une consultation médicale gratuite où un très gentil docteur a bien voulu lui retirer son stérilet. Et elle rigole, elle n'arrête pas de rigoler. Il lui manque les deux incisives supérieures. Elle est riche, elle ne devra plus jamais travailler, elle a touché le gros lot. Moi, l'inconscience hilare de cette femme vache me rend dingue. Et j'ai envie de lui donner des coups de pied dans le ventre. Alors je me raccroche aux formes et puis je lui dis, « Madame, vous verrez tout ça demain avec le médecin. Hein ?» Elles rêvent toutes plus ou moins d'enfants. Un objet, une chose, une extension d'elle-même qui réparera tout. Les plus jeunes, encore fécondes, fantasment des familles nombreuses et puis les plus vieilles se rabattent sur des poupées. Mais dans la réalité, le problème se pose rarement. On pratique tous l'eugénisme sans jamais le nommer. Plutôt, on le bricole au coup par coup. On pense au dommage néonatal de l'alcoolo-tabagisme et puis on pousse un contraceptif par-ci, un avortement par-là. Pour le reste, la malnutrition, les neuroleptiques et le désespoir font le boulot à notre place. Je me souviens aussi d'un jeune, environ 25 ans. Il nous avait montré une blessure de hanche rongée par la gangrène. Il n'y a qu'une opération chirurgicale immédiate qui pouvait lui sauver la vie, mais il a refusé d'être soigné. Il a remonté son pantalon en souriant. Entre nous, on appelait ça le coup de la stripteaseuse. On regarde, mais on n'a pas le droit de toucher. Le patient exhibe une pathologie externe grave, juste pour le plaisir de voir la tête que font les soignants. Pour les voir s'affoler, s'agiter dans tous les sens. Puis après, il se rhabille et il s'en va, méprisant, en les laissant seuls face à leur angoisse et à leur impuissance. Moi, j'ai demandé à ce jeune homme de me suivre dans une pièce à l'écart. Et pendant près d'une heure, je lui ai parlé de sa mort imminente, de la souffrance qui l'attendait. Je lui ai décrit dans les moindres détails la progression des symptômes, la puanteur croissante de sa pourriture. J'ai tout essayé. Froid, proche, détaché, compatissant, tout. C'était comme un étrange bras de fer vaguement pervers. Lui, il allait et venait dans la pièce, tantôt ailleurs, tantôt nerveux, parfois ému, mais la plupart du temps, ricanant. C'est la jouissance du mégalomane, ça. Il tenait sa vie dans sa main. C'est comme ça, quand ils sont jeunes. La mort les fait bander. Tout ça s'est prolongé jusqu'à la tombée de la nuit. Et puis au bout d'un moment, chacun de nous deux a repris sa place, fatigué, nauséeux. On s'est regardé longtemps, en silence. Et puis, je me suis levé. J'ai ouvert la porte. Et il est parti, comme s'envole un oiseau. Je ne l'ai jamais revu. Bon, et puis bien sûr, il y a ce monsieur que les pompiers avaient trouvé dans le métro, recroquevillé dans un coin, pas encore tout à fait mort, mais déjà un peu raide, hypothermie de fin d'été. Encore une victime du caractère saisonnier de l'aide humanitaire. Ils nous l'ont amené dans une couverture tenue aux quatre coins, et puis l'ont posé là, sur le sol de la salle de soins. La cinquantaine, hirsute, squelettique. Il roulait des yeux en ouvrant et fermant la bouche sans faire de bruit. Comme un poisson. Il était trop faible, trop raide pour qu'on puisse le déshabiller normalement. L'effort l'aurait tué. Alors les infirmières ont découpé ses fringues au ciseau. Une fois tout nu, on aurait dit une momie fragile bouffée au mythe. Sur l'épaule gauche, il avait une lésion parcheminée. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, la peau s'était transformée en parchemin. Texture, résistance, tout. Et ça, vous voyez, ça c'était une aberration médicale. Normalement, il n'y a que sur certains cadavres que les médecins légistes trouvent des lésions pareilles. Sa température était de 28,5 degrés. Il a vécu encore près de 3 heures. Et puis il est mort dans son lit d'hôpital, dans des draps bien propres, tout blancs. Jusqu'au bout. Il a tenu ma main dans la sienne. Et tout à la fin, il a tourné le visage vers moi. Il a souri. Et il a murmuré : c'est difficile. On n'a jamais su son nom. Pour se changer les idées, il y avait le réfectoire. Le réfectoire du personnel de l'hôpital. Pour nous, c'était un précieux exutoire à toute la tension accumulée. C'est le lieu du grand déballage. Grossièreté, obscénité rituelle, jet de projectiles sur les murs, graffiti. Et c'est là que j'ai connu Raymond. Un ancien clochard hébergé, affecté au service du midi. C'était en 1988. Raymond, je l'ai tout de suite trouvé sympa. C'est vrai, il était toujours dans le coup. Discret, mais présent. Il vous fournissait un yaourt quand vous n'aviez plus de projectiles sous la main. Une banane pour parfaire votre imitation du gorille méditatif. Un clin d'œil par-ci, un sourire complice par-là. Bref, c'était comme une sorte de compagnon, d'écuyer. Raymond, c'était un bonhomme avec une bouille toute ronde, un œil vraiment malicieux, et puis un gros pif. On aurait dit un peu Puck, le Puck de Shakespeare dans Le songe d'une nuit d'été. Si nous, les ombres que nous sommes, vous avons un peu outragé. Oui, enfin bon, un Puck qui aurait sacrément morflé quand même. J'imaginais avoir avec lui des rapports un peu plus proches que les autres, comme deux regards qui se cherchent pour savourer ensemble une blague bien salace, des broutilles, quoi. Une seule fois, on a parlé vraiment tous les deux. J'étais resté à table pour finir mon café. Je venais de perdre mon père. Raymond finissait de nettoyer les tables et puis il a vu que ça allait pas fort. Alors il est venu s'asseoir en face de moi et puis il m'a parlé. Il m'a dit les mots de circonstance. Des mots gentils. En juin 1997, Raymond est parti, il a déménagé. Il a quitté Nanterre pour intégrer un foyer de réinsertion à l'extérieur. Moi, cet été-là, j'ai passé mes vacances à naviguer en mer du Nord. Il n'y a qu'en mer que je suis vraiment heureux. Entre ciel et brouillard, avec de temps en temps la joie d'un dauphin, l'honneur d'un oiseau qui vient se poser sur le cockpit, la grâce d'une étoile filante la nuit. Bref, peu de temps après la rentrée, en octobre, j'ai appris comme ça, au détour d'une phrase, que Raymond était mort. Puck est mort. On l'avait trouvé un mois avant à l'abribus, Red, juste devant la maison de Nanterre, de l'autre côté de la rue, à 15 mètres à peine du poste de garde, 15 mètres seulement, comme s'il avait voulu nous dire quelque chose. Moi, j'ai voulu savoir. J'ai voulu comprendre ce qui s'était passé. J'ai retrouvé le dossier de Raymond à Nanterre, tout le monde en a un. Des tas de petites fiches. Le passé, le présent, les morts, les vivants, tout le monde est là. Acte de naissance, date d'entrée, date de sortie, parcours dans l'institution, tout. Raymond est né dans le centre de la France. Patelin reculé, trou profond. Il avait 50 ans quand il est mort. Moi, je lui en donnais bien 15 de plus. Fils de Jean et de Marie, profession cultivateur. Sur l'acte de naissance, il y avait la signature du père, Jean, très appliqué. Il ne devait pas être très fort à l'école, le Jean, il n'a pas dû y aller bien longtemps. Et puis sur la fiche maison, il y avait l'adresse de la mère, Marie. Elle ne devait plus être toute jeune. J'ai pas voulu. J'espérais qu'elle était en train de roupiller bien au chaud, près de son poêle, comme un vieux chat, sans trop de cauchemars. Raymond a divorcé deux fois, à 32 et 38 ans, et c'est après son deuxième divorce qu'il a commencé à dériver. Classique chez les clochards. À l'abri d'un couple, au sein d'une famille, ils peuvent un temps donner l'illusion d'un comportement presque normal, mais aussitôt privé de cet étayage, il s'effondre, il s'écroule, et il se clochardise en quelques semaines, voire en quelques jours. À la rue, depuis son deuxième divorce, Raymond est admis comme hébergé à Nanterre en septembre 88. Il déclare qu'il est serveur de profession. Alors on l'affecte aussitôt au réfectoire, contre un petit pécule. Il a sa chambre individuelle. Tout le monde est content de lui. Gentil, bon travailleur. Il a très vite une autorisation permanente de sortie. Tout se passe bien pendant 9 ans. Aucun problème. Jusqu'au 26 mai 1997. Ce jour-là, Madame Pinson, l'assistante sociale, évoque devant Raymond une possible promotion dans un foyer de réinsertion à l'extérieur. Elle lui fait miroiter qu'il pourrait gagner beaucoup plus là-bas. Et puis elle dévoile des grands projets pour lui, en flattant sa personnalité si sympathique. Raymond aurait pu répondre « Merci beaucoup, madame, mais vous savez, moi je suis beaucoup trop faible, beaucoup trop taré, beaucoup trop bizarre, beaucoup trop alcoolique pour me permettre de vivre ailleurs qu'ici. » Mais voilà, Raymond a fait ce qu'on attendait de lui. Il a simplement répondu « Merci beaucoup, madame. » Et Puck a scellé son destin. Juin 97, Raymond déménage pour le foyer. Bon pour le service, un stage, une formation, quelle aubaine. On s'était pris à rêver pour lui d'un bel avenir. Il allait payer pour tous les autres. Tous ces tarés, crevards, alcoolos incurables dont on ne sait pas quoi foutre. Raymond, lui, on allait lui tracer un avenir glorieux, organiser un petit lourd, rien que pour lui, en faire un miraculé. La réinsertion, le Graal du travailleur social. On s'est dit que le réfectoire, c'était pas assez pour son immense potentiel, qu'il serait beaucoup plus heureux à l'extérieur, dans le monde du travail. Il faut être positif dans la vie, optimiste, c'est ça le secret de la réussite. Positif. Dans le dossier de Raymond, j'ai retrouvé un rapport d'évaluation de Madame Pinson. Un stage sera pour le sujet l'opportunité de reprendre contact avec le monde du travail et de se montrer plus dynamique dans ses démarches de réinsertion. Le travail. Le travail. Le seul désir, le seul principe, le seul fantasme qui compte véritablement. Le travail. Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est l'antidote à tous les vices. Pourtant, il y a une chose, hein, il y a un petit détail qui aurait pu les alerter. L'autorisation permanente de sortie. Ce document qu'on remet comme meilleurs éléments à ceux en qui vraiment on peut avoir confiance, eh bien, Raymond l'avait déchiré. D'instinct, il avait compris que la liberté, c'était pas pour lui. Il n'en voulait pas de sa permission de sortie. Il savait que dehors, ce qu'il attendait, c'était le danger, le désastre, l'égarement. Son ambition à Raymond, c'était de finir derrière les barreaux, à l'ombre, à l'abri, calme, comme la mer. C'était sa philosophie à lui, sa sagesse. Il le savait, lui, qu'il était un danger pour lui-même. Mais bon, qu'est-ce qu'elle pouvait bien y comprendre, Pinson, cette militante normopathe. Tous ces médiocres ne savent pas faire autre chose que de se projeter eux-mêmes partout et dans tout, avec leurs pensées irrémédiablement vulgaires. Ils sont incapables de saisir, de respecter ce qui est étrange. Ce qui est différent. Le foyer de réinsertion, Raymond en a été radié en juillet, marqué absent. Bah ouais, ça lui a pas plu à Raymond, la réinsertion. Non, les joies de la normalité, les grandeurs de la pleine citoyenneté, tout ça, non, non, non. Un mois, il a tenu et puis il a foutu le camp. Il est reparti vers son pinard, ses délires et sa mort. Un mois de dignité normopathique. Faut dire aussi que la dignité, c'est comme l'opéra. C'est beau, c'est grand, mais c'est souvent triste et emmerdant, aussi à la longue fouet, mais quoi. Le 27 juillet 1997, Puck est parti tout seul avec son petit baluchon et sa tête de bonne pomme. Il était bien copain avec la cuisinière de Nanterre. La suite, c'est elle qui me l'a raconté. Oh bah, ça va pas traîner. Aussitôt à la rue, Raymond est redevenu un clochard pur et dur, crasseux à faire peur et toujours saoul comme un cochon. La cuisinière a essayé de l'approcher, mais il la fuyait, il l'évitait. Tu parles. Il pouvait plus voir, plus sentir. Il se dégoûtait. Il avait honte. 2 mois, il a tenu dans la rue, Raymond. 2 mois dans sa crasse, son ivresse et son désespoir. La mort de Raymond, à l'abribus en face, de l'autre côté de la rue, comme éthylique et hypothermie, on n'y était pas. Hein. Mais on peut imaginer, c'est pas bien difficile. Ce soir-là, Raymond devait déjà être fin sous, à moitié paumé, déjà à moitié inconscient. Et comme ça, d'instinct, il reprend le chemin de Nanterre. La maison de Nanterre, la maison. Raymond revient à la maison. Déjà un peu somnambule, à la dérive, au hasard des litres, en s'accrochant comme il peut pour rester debout. Mais arrivé devant la maison de Nanterre, il n'ose pas aller sonner à la grille. Parce qu'il se souvient des surveillants. Dans l'état où il est, ça va être des insultes, des bousculades, et puis sûrement un refoulement. Parce que, en principe, à Nanterre, on n'accepte que les personnes amenées par les cars de ramassage. Alors bien sûr, en février, avec de la neige et moins 5 degrés, ben Raymond, on l'aurait engueulé, mais on aurait fini par le laisser rentrer. Tandis que là, on est en septembre. C'est beaucoup trop tôt dans la saison pour qu'on puisse penser à l'hypothermie. Et Raymond n'a aucune chance. Voilà comment le caractère saisonnier de l'aide humanitaire va encore tuer. On l'a dit pourtant, hein, on l'a expliqué, répété. On l'a écrit même, mais poliment, comme il faut. Au sympathique préfet de police, au bien-aimé ministre de la Santé, à l'immense président de la République. Mais rien n'y fait, rien ne change. Chaque année c'est pareil, c'est comme un air de saison. À l'approche de Noël, les médias s'agitent, les politiques se trémoussent, tout le monde vocifère de compassion. On rameute les bataillons de dames patronesses, on fait chauffer les soupes, mais seulement de novembre à mars. Parce qu'après c'est fini, on ferme, on n'a plus de sous, on a déjà donné, allez hop, foutez le camp les clodos. Alors les clodos, ben, ils s'épuisent pendant tout l'été. Et puis ils meurent au premier froid et il ne faut pas grand chose. Septembre, ça suffit. Et d'ailleurs, ça a suffi à Raymond, septembre. Bon, et puis revenir, c'était pas facile. Revenir. Le coup du fils prodigue, c'est bien joli, mais là, c'est pas comme ça que ça se passe, non. Là, il faut d'abord affronter la surveillante chef, si elle veut bien vous recevoir. Faut s'aplatir bien bas. Demander bien pardon. Promettre qu'on recommencera plus jamais. Combien j'en ai vu comme ça. À genoux, en pleurs, en train de la supplier. Bon, est-ce qu'il a essayé quand même, Raymond, ce jour-là? Est-ce qu'il y est allé, à la grille? On ne saura jamais. Mais moi, je pense pas. Non. Parce que Raymond, c'était pas un gueulard. Raymond, c'était un modeste, un timide, un peu craintif même. Non, moi, Raymond, je l'imagine aller s'asseoir bien en face, là, à l'abribus, de l'autre côté de la rue, et puis, de temps en temps, regarder vers la lumière, la chaleur, la vie. De temps en temps, de loin, avec ses yeux de chien triste, il lève la tête. Mais sa tête est de plus en plus lourde. Il était assis, puis le voilà qui se retrouve affalé sur le côté. Et puis, il s'assoupit. Il s'enfonce lentement dans le coma. Le froid et l'alcool ensemble, ça fait un cercle vicieux absolument implacable. L'alcool est un vasodilatateur, c'est pour ça qu'on a l'impression que ça réchauffe. En fait, sous l'effet de l'alcool, les vaisseaux sanguins de la peau, des pieds, des mains, du visage se dilatent et appellent un afflux de sang. Mais au passage, au contact de l'air frais, le sang se refroidit. Et en arrivant au cœur, il le refroidit et c'est du sang froid que le cœur envoie dans les artères. Donc la température du corps baisse. Et qu'est-ce qu'on fait? On boit un petit coup pour se réchauffer. Et ainsi de suite. Et plus on boit pour se réchauffer, plus on se refroidit. L'hypothermie commence par une phase dite agressive. Il frissonne, Raymond. Il ne peut pas s'arrêter de frissonner, il claque des dents. C'est son corps qui se défend. Et puis au bout d'un moment, l'organisme sent bien qu'il est impuissant. Et il abandonne lentement la partie. Au stade 1 de son coma, Raymond s'agite dans son sommeil, donc il bredouille quelques mots. En principe, à ce stade-là, on ouvre les yeux au moindre appel, mais ben, on n'a pas dû l'appeler, Raymond. Il devait quand même marmonner quelques trucs, des mots tout cassés, des miettes pour les étoiles. Après, les fonctions vitales prennent le maquis, l'hypothermie progresse, le cœur ralentit, la respiration aussi. C'est le stade 2 du coma. Là, si on l'avait stimulé, même violemment, Raymond n'aurait réagi que confusément. Mais en principe, il n'a pas trop mal. Il coule doucement. Il se met en position fœtale et puis il divague. Les pupilles dilatées, il rêve. Il est déjà loin, tranquille. Peut-être. Après tout s'effondre. C'est le stade 3. Abolition totale des réflexes, absence de réaction aux stimulations sensorielles, la respiration se fait de plus en plus rare, et puis le cœur est en délire, faux départ, soubresaut, c'est la pagaille, la débâcle. Conscient, ce serait horrible. Mais il s'en fout, Raymond. Tout ça le concerne plus. Il est déjà loin. Stade 4, coma dépassé. Après avoir perdu les fonctions de sa vie de relation, conscience, sensibilité, réflexe, Raymond a perdu les fonctions de sa vie végétative. Une perte totale et irréversible de toutes les fonctions du système nerveux. Raymond est mort. Dans la nuit. C'est au petit matin qu'on a trouvé son corps, là, devant la maison. Vous voyez, pour Raymond, la plus grande des libertés, mais c'était justement d'y renoncer. Mais ça, on ne lui a pas permis. Non. Nous autres, hommes éclairés, on l'a conduit à sa mort. Pour son bien. Bon, j'ai voulu reconstituer la fin de son voyage. Dépouille, enterrement, tout ça. Puis je voulais trouver sa tombe pour le saluer. L'administration est restée très évasive. Dans les bureaux, ils m'ont dit que le corps de Raymond était resté anormalement longtemps à la morgue. Problème d'identification. Bah oui, tu parles. Raymond, c'était un cas, une exception. Alors forcément, les autorités savaient pas trop quoi en foutre. Ça a traîné. 6 semaines. 6 semaines, il est resté dans son frigo, Raymond, à attendre, bien sagement. Et puis un jour, hop, ça y est, il avait foutu le camp. À mon avis, il devait en avoir bien honte du corps de Raymond. Bien honte. À Nanterre, dans la maison même, il y a un commissariat de police. Et je me suis dit que les flics avaient dû intervenir d'une manière ou d'une autre pour le constat de décès, qu'il y avait sûrement une trace administrative. Et je suis tombé sur 2 policiers en civil qui devaient beaucoup regarder la télévision. Jeans, chemise ouverte, gros calibre, des hommes, quoi. Ils comprenaient pas grand-chose. Un mort, vous dites ? En septembre, Et un mois ? Mais vous êtes sûr ? Mais d'abord, monsieur, qu'est-ce que vous voulez savoir au juste ? Et puis c'est pour quoi faire ? Alors moi, j'ai tout réexpliqué. Depuis le début, lentement. C'était laborieux. Ah oui, mais monsieur, pour ça, faut écrire au commissaire. Hein ? Ah bah pour ça, il n'y a que lui, vous pensez ? Oui, d'accord, mais sinon, il est là quand, le commissaire ? Ah bah monsieur, le commissaire, c'est le commissaire. C'est lui le chef, il fait ce qu'il veut. Il va, il vient, on va pas le déranger. Non, faut lui écrire. Bon, j'ai écrit. J'attends toujours la réponse. Mais avec Raymond, on a tout le temps, hein ? Aux urgences, il n'y avait rien non plus. Raymond devait être bien mort quand on l'a trouvé. Bien raide. Le corps directement transporté à la morgue. Dans un établissement de soins, la morgue, ça départ toujours un peu, ça fait des ordres. Alors la morgue, elle est toujours loin de tout, à l'écart, jamais indiquée. Une morgue, ça n'existe presque pas. Il a fallu que je demande, que je redemande. Personne ne savait où elle était. Et puis finalement, j'ai su. Dans une tour. Oui, vous verrez, sur le chemin de ronde qui fait le tour de la maison. Effectivement, il y avait une tour. Du genre médiéval, avec une porte bleue au milieu des buissons. J'ai sonné et la porte s'est ouverte sur une espèce d'hominien en blouse blanche, tout droit sorti du paléolithique. Derrière lui, un escalier s'enfonçait dans les profondeurs, baigné de lumière verte. C'était presque trop beau. Alors j'ai raconté ma petite histoire, ma quête, Raymond, tout ça. En m'écoutant, l'homme singe fronçait des sourcils épais comme des moustaches. Moi, j'articulais bien distinctement. Et puis là est arrivé son comparse, péremptoire. Aucune trace, pas de main courante, pas de défunt, pas de dépouille, rien. Et la porte sur l'enfer s'est refermée. Restait le cimetière. Le cimetière de Nanterre, le nôtre, rien qu'à nous, qu'à votre famille. Le cimetière, personne non plus savait où il était. Et pourtant, il n'est pas loin. 1 kilomètre à peine. Une vieille pancarte accrochée à un poteau par un bout de fil électrique. Un chemin tracé d'un coup de bulldozer au milieu de la zone industrielle de Nanterre, bordé d'usines, d'entrepôts. Au bout des tuyaux, qu'il est le cimetière. Au bord du trou du cul de l'univers. J'ai donné le nom de Raymond au gardien. Vous savez où je peux le trouver ? Ah non, il n'est pas là, je suis tout seul. Il n'y a personne d'autre que moi ici. Non, mais il est mort. Ah bon ? Oh ! Voilà, c'était la journée des intellectuels. La quête de Raymond se terminait en sketch surréaliste. C'était lamentable. Le gardien a ouvert un vieux registre couvert de toiles cirées, une relique avec des lignes très proprement tracées à la règle, des dates, des noms, mais toujours pas de Raymond, on trouvait rien. « Attendez !» il me dit. « On va voir avant. » Et là, il se met à tourner les pages de son grand livre, son bottin des morts. Il veut absolument qu'un disparu me plaise, que je reparte pas les mains vides. Alors, on s'est promenés comme ça, tous les deux, dans ces colonnes de morts bien rangées. On est remonté au fil des cadavres et il y en avait des pensionnaires, il y en avait du choix, des femmes, des enfants, des jeunes, des vieux. Moi, j'étais gêné, j'avais l'impression de faire le difficile, c'est vrai, c'est pas gentil de toujours refuser. Et lui, il voulait absolument me refourguer un cadavre, n'importe lequel. Mais enfin, vous êtes sûr que vous en connaissez pas un autre ? Voilà. Finalement, j'ai demandé au gardien la permission de rentrer dans le cimetière et puis de chercher moi-même la tombe de Raymond. Ce cimetière, je le sentais venir depuis le début. Depuis ma première nuit à Nanterre, en fait. Je m'en méfiais. Je le redoutais, je le repoussais. Et j'avais bien raison, parce que dans son genre, le cimetière de la maison de Nanterre, c'est un sommet. 5 étoiles au Michelin de la désespérance. Tout de suite après l'entrée, à gauche, il y a une 50aine de tombes qui se tiennent à l'écart des autres. Ça, c'est le beau quartier Celui des riches qui ont de la famille, des membres du personnel. Fleurs, marbres, décorations. C'est les bien entourés, les regrettés, les chers disparus. Parmi eux, Max Fourestier lui-même, qui a donné son nom à l'hôpital. Ancien chef de service pneumologie à Nanterre. Un vrai croisé de la tuberculose, Max. Il pensait qu'à ça. C'était avant les antibiotiques. Il a dû en voir, Max, des agonisants, des étouffés en sueur, des noyés dans leur sang. Et Max a demandé à être enterré auprès de ses malades. Il a voulu finir près d'eux. Pour l'éternité. Chapeau, Max. Chapeau. Bon, à part ces aristocrates du linceul, le cimetière, c'est un désastre. Ni fleurs, ni couronnes, pas de fioritures, pas d'herbe non plus, que du sable, et pourri le sable, que des croix plantées dedans, incertaines. Le sable est trop meuble, presque mouvant, les croix tanguent, toutes de travioles aussi bourrées que leurs propriétaires, des croix qui ont la bloblotte. La plupart du temps, avec les années, la plaque métallique avec le nom et les dates est devenue illisible, ou s'est carrément décrochée et s'enfonce lentement dans le sable. La croix perd son mort, devient anonyme, dérive fausse commune, c'est l'ultime naufrage. Tout disparaît, jusqu'au dernier signe. Parfois, chez les femmes, les copines de chambrée se sont cotisées, ils sont allés de leurs 3 francs. Pour Suzanne, pour Yvonne. Des orchidées en plastique dans des boules avec de l'eau et des paillettes pour que ça fasse joli quand on remue. Mais personne ne remue jamais. Moi j'étais là à aller d'une tombe à l'autre, presque en courant comme si le temps pressait, une rangée, une autre, toujours pas de Raymond. Mes jambes étaient lourdes. J'avais 1000 ans, j'avançais péniblement dans le sable comme pris dans la glu, un tassement de tout mon corps, un poids terrible, et puis une sorte d'apnée aussi, et la tête qui tourne comme l'ivresse des profondeurs. Et tout à coup, au bout d'une allée, je tombe sur 4 coquelicots, comme un sémaphore de vie. 4 coquelicots, timides, chétifs, tremblants dans le vent. Et ils sont pas là pour rien, les coquelicots. Ils montent leur petite garde rouge. Ils veillent sur la rangée des enfants morts. Une quinzaine de croix. Il y en a une qui me tend les bras, je pouvais pas la louper celle-là, elle était comme faite exprès pour moi, moi qui suis un peu marin. Sur la plaque, il y a un nom, Orne. Et puis la mention Morné. Et puis comme date, un jour de la semaine d'avant. Moi, Orne, évidemment, ça me fait penser au Cap Orne, au 50e rugissant, à la majesté des océans, aux albatros. Il y a quand même que je suis vraiment heureux. Albatros, tu parles. Même pas encore poussin, le petit Orne. Mort-né à Nanterre. Moi, j'étais là comme un abruti. Je pouvais plus bouger. Mes pieds s'enfonçaient dans le sable. J'allais devenir croix, moi aussi. Et je rêvais d'une grande marée qui nous emmène loin, le petit Horn et moi, au bout du monde. Pour y cracher au vent, pour y jouer à qui pisse le plus loin, pour y cueillir un brin d'éternité. J'ai cherché un poème à me réciter, mais j'en ai pas trouvé. Je me suis souvenu à la place d'un vieux mauvais rêve, du temps de ma chambre, la cité universitaire, une histoire de boyaux, de tunnels. Je me baisse, je rampe, ça descend, ça rétrécit, et là arrive une foule affreuse, une marée grouillante de nains, d'estropiés, de bossus, de lépreux. Ils puent, et ils s'approchent de plus en plus, les mains tendues en avant, comme ça, comme pour m'attraper, comme la mort. Et là, il a fallu que je m'arrache de cimetière en me traitant tous les noms. Et je suis parti avec cette question qui m'étouffait, qui m'emplissait de partout comme une vague d'encre. Y a-t-il une vie avant la mort ? Un jour, tout disparaîtra. Chaque brin d'herbe, chaque fleur, poisson, insecte, oiseau, mammifère, nuage, goutte d'eau. Un jour, notre soleil va mourir et on le sait. Et moi, je pense à ça. À chaque fois que mon regard se pose sur une chose, tout périra.
Si nous, les ombres que nous sommes, nous avons un peu outragé, dites-vous, pour tout arranger, que vous venez de faire un somme, qu'ensemble, vous avez rêvé. Ce spectacle vain et qui s'allonge n'était rien d'autre qu'un songe. Amis, ne nous en veuillez pas, on fera mieux. D'autres fois, aussi vrai que Puck est mon nom. Et si par chance, vous décidiez de garder pour vous vos sifflets, on reviendra encore longtemps. Où Puck n'est qu'un menteur. Sur ce, à vous tous, bonne nuit. J'espère que nous restons amis et si vos mains frappe assez fort. Puck réparera ses torts.
Head above and heaven below, all the trees are gone. Rain makes such a lovely sound to those who 6 feet underground. The leaves will bury every year, no one knows I'm gone. Hell above and heaven below, The rain makes such a lovely sound to those who 6 feet on the ground. The leaves will bury every year, no one knows I'm gone. Leave me golden, tell me dark, hide from graveyard Joan. But the moon is full here every night, and I can bathe here in his light. The leaves will bury every year, and no one knows I'm gone.
Personne sait que je suis parti.
Les naufragés. Adapté du livre de Patrick de Clercq par François Cotterelle et Emmanuel Mérieux. D'après la mise en scène d'Emmanuel Mérieux. Avec François Cotterelle et Stéphane Balmino. Musique, Raphaël Chambouvet. Création sonore, Raphaël Guénaud et Félix Mullenbach. Équipe technique, Benjamin Perru et Mathieu Leroux. Coordination, Franck Malabry. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Merci à Wojtek Noiret et aux équipes du Théâtre de la Ville, Espace Cardin. Les naufragés, avec les clochards de Paris, de Patrick de Clercq, est publié chez Plon dans la collection Terre humaine.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er novembre 2020. Vous pouvez la réécouter en ligne et la télécharger sur le site franceculture.fr, à la page des nuits de France Culture et sur l'application Radio France.